ça fonctionne. Bon, on va peut-être commencer un peu interactivement, pour une fois. Bon, imaginons que vous avez d'un côté un empilé de briques, juste de briques, enfin, toutes de même grandeur, enfin, de briques rouges, enfin, comme on fait des maisons. Et vous transformez cet empilé de briques, brique à brique, dans une maison bien construite, en briques, avec les mêmes briques. OK? Donc ça, c'est une transformation. Et une fois que la maison est construite, vous faites la transformation inverse. Vous transformez brique à brique la maison en empilé de briques. Alors, lequel de ces deux transformations est plus facile?
Faire la maison pour faire un tas de briques.
Mais ça, c'est plus facile.
OK. OK, très simplement.
On peut avoir deux approches. Plus facile sur le plan technique et plus facile pour le plan moral.
D'accord, mais je parle du point de vue strictement, oui, technique, matériel. Oui.
Bien sûr, de faire une maison si le ciment n'est pas encore très, très fort.
C'est ça. OK. Mais, OK. Non, très bien. Maintenant, pourquoi? Pourquoi est-il plus facile de défaire la maison en tas de briques que de transformer le tas de briques en maison? C'est les mêmes briques, mais ça c'est un des points des choses, c'est les mêmes composantes, OK?
Parce qu'il y a un ordre.
OK.
Il faut que ce soit la complexité, l'ordonnance.
C'est ça. Donc, si on veut faire ça un peu plus complètement annoncé, parce que, évidemment, il n'y a qu'une seule façon de faire la maison. OK. Même si vous avez les mêmes formes de maison, vous avez le choix quelle brique vous mettez comme première brique, quelle brique comme deuxième, c'est-à-dire, OK. Supposons juste pour le fun, enfin pour ainsi dire, on dit que c'est la même forme de maison, OK? Alors, dans ce cas-là, il y a juste une configuration qui représente la maison, tandis que n'importe quelle configuration représente un tas de briques. Parce que n'importe quelle, c'est désordonné. Donc, l'ordre est moins probable que le désordre. Ou le désordre est plus probable parce qu'il y a plus de façons de faire le désordre que de faire l'ordre. Parce que l'ordre, précisément, par définition, est une configuration ou une parmi un nombre limité de configurations qui définissent l'ordre, tandis qu'il a quasiment une infinité de façons. Ben, il a une infinité de façons. C'est-à-dire, il a littéralement une infinité de façons de faire un tas de briques. OK? Même sur le même terrain, n'est-ce pas? Vous changez juste une brique et ça change le tas. Donc, c'est la même chose avec la vérité. C'est-à-dire, quand on cherche la vérité de quelque chose, on veut chercher ce qui est conforme à la réalité. Mais la réalité a une structure. La réalité est ordonnée, nous savons. Enfin, bon, il a des lois et tout ça. Il a des régularités dans la nature, par exemple. Donc, c'est ordonné. Alors, si je veux découvrir une vérité quelconque, il faudrait que j'arrive à comprendre l'ordre, et il va y avoir juste quelques bonnes façons de comprendre la chose correctement, n'est-ce pas? C'est-à-dire, autrement dit, où je veux en aller avec ça, c'est tout simplement la chose suivante. Si je fais par tâtonnement, si j'ai aucun système, j'ai aucune méthode, est-ce que je risque plutôt de trouver la vérité ou la fausseté? la fausseté. Autrement dit, c'est la même chose. Il y a mille et une façons de faire faux, mais il y a juste un ou un nombre limité de façons de faire vrai, n'est-ce pas? Encore une fois, donc la fausseté est beaucoup plus probable que la vérité, ou, comme on l'a dit la première fois, il est beaucoup plus facile de tomber ou de faire la fausseté que de tomber sur la vérité. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait devant cette situation-là? Eh bien, ce que la science fait, c'est bon, il faudrait une méthode, il faut une méthode soignée, où on fait des observations très précises, on les enregistre. Une fois qu'on a un certain nombre d'observations, on considère les répétitions, enfin les dessins, les patterns qui paraissent, les régularités, et on fait des hypothèses d'où vient cette régularité, et on teste ces hypothèses, et si ces hypothèses sont vérifiées, nous disons que nous avons une vérité scientifique, ça a été testé, ça conforme à la réalité. La vérité dit, la vérité est un ensemble universel, enfin, tous les canards sont, enfin, tous les lions sont des mammifères, ou je ne sais pas quoi. Et puis ça se vérifie dans la réalité, chaque fois que vous tombez sur un lion, c'est en effet un mammifère. Enfin bon, je prends un cas vraiment banal, mais c'est le point logique qui m'intéresse ici. Donc, la méthode scientifique existe précisément parce que les gens ont pris conscience de ce simple fait que la vérité est précieuse, qu'il est beaucoup plus difficile d'avoir la vérité que d'avoir la fausseté. Et il y a aussi le principe Hatcher, je vous rappelle le principe Hatcher. Vous vous souvenez déjà du principe Hatcher, non? Ok, le principe Hatcher, c'est on ne peut pas bien faire en mal faisant d'une autre façon. Donc, mais, et c'est ça que nous faisons souvent, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'une fois qu'on se rend compte qu'on se trompe, bien, qu'est-ce qu'on fait? On surcompense et on fait faux, mais d'une autre façon, n'est-ce pas? Alors, donc, le fait de faire différent de ce qu'on a fait, c'est le fait de constater que la façon que je fais maintenant est faux, et je le sais, et donc, je vais faire d'une autre façon, mais ça en soi est une faible garantie de trouver la vérité, n'est-ce pas? Parce qu'il y a une infinité de façons de faire faux autrement que la façon qu'on vient de faire. Donc, bien sûr, c'est une certaine observation, une certaine information que nous avons, le fait que cette façon de faire est faux. Okay? Mais ça ne nous donne pas beaucoup d'indications comment trouver une vraie façon. Si simplement je change, j'essaie quelque chose d'autre et encore quelque chose d'autre, je ne risque pas beaucoup de trouver la vérité, ou ça va être très lent à trouver la vérité. Je peux même me détruire avant de trouver la vérité. Si par exemple, la question c'est de savoir lequel de ces herbes est poisonneux et lequel sont nourrissants, eh bien, avant que je trouve ça, on peut tuer beaucoup de personnes, n'est-ce pas, en fait, si on n'a aucune façon systématique de le faire. Etc., etc., n'est-ce pas? Bon, maintenant, la méthode scientifique que j'ai décrite brièvement existe dans cette forme-là, de façon consciente, est appliquée de façon consciente depuis à peu près 300 ans, n'est-ce pas? Enfin, c'est le tout début de ça, c'est Galilée, n'est-ce pas? Et ça, c'est quoi? Il y a peut-être 400 ans ou 375 ans, quelque chose comme ça. OK? Et ensuite, il y avait Descartes et Leibniz et Newton. Et puis, à ce moment-là, la chose était bien lancée. Mais c'est une éclosion qui a eu lieu dans quelques années, n'est-ce pas? Quelques générations. Et cette méthode qui a été décrite par Galilée d'ailleurs, et puis augmentée par Descartes dans son discours de la méthode, enfin élaborée, disons, par Descartes, la méthode dite empirique, où on teste les choses et tout ça, était pour à peu près pas du tout appliqué pendant toute l'histoire avant, mettons, Descartes, n'est-ce pas? C'est-à-dire, pendant des millénaires avant l'époque moderne, qui commence avec Descartes, les gens n'employaient pas cette méthode. Maintenant, ils employaient des méthodes. Mais c'était des méthodes superstitieuses, c'était des méthodes mystiques où on priait, on pensait peut-être à l'autre jour quand il avait de pluie, j'avais mes jambes croisées exactement de cette façon-là, on a besoin de pluie, peut-être si je recroise les jambes comme ça, etc. Ben, c'est une régularité, c'est une coïncidence, etc. Mais en fait, c'est vraiment de cet ordre de raisonnement qu'on voit partout dans l'histoire, les mythes et tout ça, qui disent, mais voilà, la magie, la superstition, l'espoir qu'il y a quelque lien que ça soit entre les choses que fait le prêtre, n'est-ce pas? Enfin, je m'excuse, mais enfin, on est tous mariés ici. Si vous regardez la messe, enfin, c'est bourré de ça. C'est de la superstition la plus rigoureuse, n'est-ce pas? Alors, maintenant, je vous pose maintenant la question suivante, simplement. Si il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'humanité des sources de vérité infaillibles, c'est-à-dire qui ne se trompent pas, quelles sont les chances que l'homme aurait pu créer la civilisation qui existe actuellement? Quelle est la probabilité que l'homme aurait pas lui-même, avec ses tâtonnements, et étant donné que même la méthode scientifique, qui n'est pas infaillible, mais qui est quand même systématique, est appliquée seulement depuis 400 ans, et déjà il avait une civilisation, il avait déjà eu, enfin, des civilisations, Égypte, Rome, Grèce, et tout ça, enfin, quelles sont les chances devant les simples faits de la condition humaine, ok? Je fais un argument existentiel, pas philosophique même, mais existentiel, ok? Vous savez les conditions de vie. Combien de gens est-ce que vous connaissez dans votre entourage qui pratiquent la méthode scientifique? Ok?
Peu.
Peu. Et un autre nom pour la méthode scientifique, c'est la raison, c'est la rationalité, n'est-ce pas? Alors, par exemple, je pense que c'était Charles Darwin qui a été, qu'est-ce qu'on dit, une malade imaginaire, n'est-ce pas? Et puis, il avait toutes sortes de douleurs, enfin d'afflictions, où il se posait, il croyait les avoir. Et Darwin, qui avait fait toutes ces observations minutieuses sur les formes vivantes, etc., et toute la théorie d'évolution, s'il entendait que quelqu'un avait pris un remède qui l'avait guéri de quelque chose, vous avez pris un remède qui a guéri votre toux, il le prendrait tout de suite dans l'espoir de guérir sa goutte. Mm-hmm. C'est-à-dire, sans aucune médecine, sans aucun lien apparent entre ça, il gobait tous les médicaments comme ça. Autrement dit, il était rationnel dans un petit domaine, n'est-ce pas? Mais d'une façon générale, il était complètement aussi rationnel que nous tous, si vous voulez. Donc même aujourd'hui, où notre civilisation actuelle, est, nous le pensons comme étant scientifique, de base scientifique, nous voyons que c'est la même chose. C'est-à-dire, même les grands esprits scientifiques sont rationnels dans leur petit domaine de savoir, mais dans la vie de tous les jours, ils sont aussi irrationnels, aussi tâtonneux, n'est-ce pas, que tout le monde, n'est-ce pas? Et ça, j'ai vu ça, en fait, par exemple, en Russie, il n'y a pas de normes. Je pense que les préjugés raciaux et tout ça, ça existe à peu près à force égale partout dans le monde. La seule différence, c'est les normes qui dictent qu'on ne peut pas articuler ces préjugés. Que ici, dans la société actuelle, par exemple, un politicien qui se lèverait à dire à haute voix que je déteste les juifs ou je déteste les noirs, ben, il est fini, n'est-ce pas? Mais en Russie, non. En Russie, les intellectuels peuvent dire ces choses-là sans être taxés. Enfin, ben, c'est un point de vue. Et puis, ça m'a beaucoup choqué. parce que je connaissais des intellectuels. Quand j'étais en Russie, j'ai fréquenté des grands intellectuels, enfin, parce qu'il y a des très grands esprits en Russie, en mathématiques surtout. Enfin, les Russes sont des mathématiciens sans pareil, n'est-ce pas? Mais dans d'autres domaines aussi, je ne veux pas dire juste les mathématiques, mais il y a des raisons pourquoi les mathématiciens en Russie étaient particulièrement forts. C'était parce que le régime soviétique estimait qu'il n'avait pas de valeur politique dans les mathématiques. Donc, il laissait libre les mathématiciens. Pour eux, c'était plus facile d'avoir ces esprits brillants, s'occuper des choses très abstraites. Mais les choses comme la physique et la chimie, évidemment, ça avait une application politique. Mais les maths, non. Donc, ils ont laissé développer les maths, et c'est pourquoi l'école russe de mathématiques, ou l'école soviétique de l'époque, était particulièrement forte par rapport à la généralité. Dans d'autres domaines comme la biologie, à cause de Lyschenko, à cause de toute la politique, la biologie était peut-être plus faible qu'ailleurs. Parce que, évidemment, tout était dicté par la politique et pas par la raison. Tout ça pour dire que j'avais donc la chance de fréquenter ces intellectuels russes que j'admirais beaucoup, enfin, qui m'avaient grandement dépassé dans leur accomplissement intellectuel, et de les entendre dire les bêtises les plus superstitieuses, les plus absolument incroyables, n'est-ce pas? Je vous donne un simple exemple, mais elle va confirmer. Si vous venez en visite chez quelqu'un, vous ne donnez jamais un nombre pair de roses. De fleurs, mais disons de roses. Vous donnez une ou trois, ou cinq si vous êtes vraiment riche, ok? Mais jamais deux, jamais quatre.
Ok?
Et puis j'ai eu le malheur d'apporter deux roses à une dame qui avait un doctorat en physique nucléaire. Et elle a blanchi. Elle était absolument abasourdie. Et puis, discrètement, elle a disposé de l'autre rose et tout ça, etc., etc., n'est-ce pas, en fait. Mais vous riez de ça, mais vous pouvez voir les gens ici qui font les choses apparaître. Donc, je ne veux pas éterniser tous ces petits exemples banals. Tout ce que je veux dire, c'est que je reviens à ma thèse principale et je repose la question. Si l'homme, avec ses qualités naturelles, était laissé à lui-même, quelle est la probabilité que ce que nous savons existe maintenant aurait pu exister? Disons, de point de vue intellectuel, matériel, social, parce que ça dépend tous de vérité. Ma premier exemple, c'était technique. Mais j'ai généralisé à la vérité d'une façon générale, n'est-ce pas? C'est ça. Et donc, nous disons que peu de gens, même dans la société dite rationnelle, sont rationnels dans la plupart de leurs actions. Et avant, il y a 400 ans, il n'y avait presque personne qui était rationnel. C'est-à-dire, les préjugés, les superstitions, ça prédominait partout dans la religion, dans la vie sociale de tous les jours, etc. Même dans la médecine. Par exemple, enfin, on sait très bien que l'hôpital l'hôpital à Paris où les femmes accouchaient. Oui, c'est ça, mais c'est un nom...
La maternité.
Oui. Merci. La maternité de Paris, c'était l'époque où les médecins avaient... D'abord, l'Église interdisait le travail sur les cadavres, n'est-ce pas? Ils disaient que ça profane les cadavres et tout ça. Mais finalement, je ne sais pas, c'était vers le 15e, 16e siècle, sauf erreur, ils ont commencé, enfin les règles avaient changé, ils ont commencé à laisser les médecins travailler les cadavres pour apprendre l'anatomie. Alors évidemment, on n'avait aucune idée de l'histoire des microbes, et, etc. Alors le taux de mort des femmes accoucheuses à la maternité de Paris était comme 98. Et la raison, en fait, on a compris plus tard, les médecins accoucheurs arrivaient d'avoir travaillé avec les cadavres sans se laver les mains. Pourquoi? Parce qu'ils sont des gentlemen. Et les gentlemen ne se lavent jamais les mains. C'est les sales gens de la rue qui lavent les mains, mais pas un médecin. Et donc, ils assistaient à la naissance, et puis parce qu'il y a une plaie, un vraiment, qui est ouvert par la placenta et tout ça, les gens ont attrapé le childbed fever, enfin, le, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais enfin, l'infection. Ouais. Et puis, ils mouraient atrocement, n'est-ce pas? Et donc, les femmes faisaient mains et pieds pour éviter d'aller à la maternité, c'est-à-dire... Par exemple, je vous donne un exemple concret que je sais. La maîtresse de Voltaire, qui est une femme savante, extrêmement savante. Donc ça, ce n'est pas l'histoire ancienne. Voltaire, c'est quoi? C'est le XVIIe siècle. Okay. Et ça, je vous jure, j'ai même le livre là. Écoutez cette chose-là. La femme de Voltaire, la maîtresse de Voltaire, est tombée enceinte à l'âge de 45 ans, quelque chose comme ça, très tard. Elle a écrit à Voltaire, on a la lettre, elle dit, on vient de signer mon arrêt de mort. Je suis enceinte, je vais sûrement mourir. Donc, elle avait évité d'être enceinte pendant toute cette période. Et donc, effectivement, elle est allée à la maternité, elle est morte. Alors, donc, nous sommes d'accord. Et remarquez que ce raisonnement est tout à fait simple, enfin, ce n'est pas un raisonnement recherché, n'est-ce pas? Que si l'homme était laissé, si l'homme avait été laissé à lui-même, dans sa condition existentielle, les chances qu'il aurait pu construire une civilisation telle qu'il existe aujourd'hui est zéro. Okay? Il faut dire que c'est zéro. Ça serait à peu près la même probabilité que voir des chiens ou des singes construire une civilisation, n'est-ce pas, en fait? Donc, l'existence même de la civilisation, pas la paix mondiale, les accomplissements futurs, l'existence même de la société actuelle est une évidence convaincante qu'il a dû avoir des sources infaillibles de vérité dans l'histoire. Or, donc, pour nous dans la foi bahaïe, nous avons le défi de parler de la maison de justice, de dire timidement aux autres que nous croyons que la maison de justice est infaillible, etc. Et les gens nous regardent et tout ça, et puis, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est des questions d'infaillibilité. Comme si c'est une chose vraiment exotique, bizarre et tout ça. Mm-hmm. Alors ma thèse est la suivante. Nous avons vécu à coup d'infaillibilité. L'infaillibilité, c'est derrière toute notre vie de tous les jours. Tout ce que nous héritons du passé, tout le savoir que nous héritons du passé, dépend des sources infaillibles. Et évidemment, nous, Bahaï, nous savons que c'est les manifestations. Donc, attendez bien, la révélation progressive de Baha'u'llah est donc une théorie scientifique. Parce qu'il explique l'existence de la civilisation et il est confirmé par les faits.
Oui, c'est vrai.
Donc, on peut parler, comme j'ai parlé dans quelques-uns de mes articles, de la théorie de la révélation progressive en tant que théorie scientifique. Et quand vous commencez, encore une fois, les gens disent, mais écoute, l'homme laissé à lui-même, il aurait pu découvrir tout ça. On n'a pas besoin des prophètes, on n'a pas besoin d'un Jésus, de Mahomet qui vienne et tout ça. Bien sûr, il avait des grandes civilisations qui suivaient la venue de ces gens-là, mais c'est des coïncidences, en fait, c'était la confluence des effets. Il avait les Grecs et les Romains et tout ça, et les Juifs qui avaient une civilisation. Tout ça, c'est la confluence, l'interchange, enfin. Il a le modèle qu'on appelle hellénique du berceau de la civilisation, que les Grecs étaient particulièrement affûtés et tout ça. Et puis ensuite, le vaisseau de la Grèce a été brisé par les Romains, et le savoir romain s'est diffusé dans le monde, en fait, c'est le modèle diffusion hellénistique de l'origine de la civilisation des dernières 2000 et quelques années. Mais qu'est-ce qu'Abdu'l-Bahá nous dit dans le secret de la civilisation divine? Il dit, la base du savoir grec, c'était les enseignements de Socrate et Platon, et Socrate a été pris prisonnier dans la guerre contre les Perses, et il a été introduit à des savants zoroastriens et juifs. Et que les doctrines principales de Socrate, l'immortalité de l'âme et le bien, en fait, toute cette doctrine, il a appris, enfin, des juifs, enfin, des rabbins juifs, etc., etc. Donc, Abdu'l-Bahá dit, très élevé, que cette civilisation grecque qu'on caractérise de civilisation séculière, n'est-ce pas, avait une base religieuse, avait une base prophétique. Donc, okay, well, some kind of pick them up so I don't lean forward and crush them. I'm sorry.
They don't usually go around you.
Well, I know, but there's always hope. I just keep trying. I put them different ways every time.
Yes, yes.
C'est ça. Il tombe tout le temps.
Peut-être au bout de 1 million de fois.
C'est ça, exactement, exactement.
Tu peux appliquer ton principe Hatch.
C'est ça, oui, c'est ça. Alors, donc, l'infaillibilité a toujours été avec nous. L'infaillibilité des prophètes, et Shoghi Effendi dit explicitement, dans un texte, il dit, toute la théorie, c'est lui qui utilise la théorie, toute la théorie de la révélation progressive repose sur l'infaillibilité des prophètes. Si les prophètes ne sont pas infaillibles, il n'y a pas ce lien avec Dieu qui fait qu'ils deviennent une source fiable de vérité. Donc, les prophètes ont en quelque sorte donné le diapason, n'est-ce pas? C'est le diapason, excusez-moi. Chaque fois qu'ils viennent, c'est-à-dire les gens sont dispersés et tout ça, alors ils sonnent une note, les gens se rassemblent autour de cela, et puis ils font un autre pas en avant. Graduellement, ça se disperse et tout ça, les gens commencent à errer, et puis là, vient un autre prophète. Remarquez que le Bab a dit dans le Bayan que si les Juifs avaient continué à suivre fidèlement les enseignements de Moïse, que toute personne habitant sur la terre serait devenue croyant juif. Il a dit la même chose pour la foi chrétienne, que si les chrétiens avaient continué à suivre les enseignements de Jésus, que chaque âme sur la terre aurait été convertie à la foi chrétienne. Il a dit la même chose pour l'islam, et il dit la même chose pour sa propre foi, la foi babi. Il dit, si mes adeptes suivent fidèlement mes enseignements, mes principes, mes lois, toute personne sur cette terre deviendra mon adepte. Donc, encore une fois, il dit que c'est les prophètes qui sonnaient le diapason et que c'était seulement quand les gens se sont écartés, commençaient à s'écarter peu à peu de cette direction sûre et rationnelle qui commençait à dégrader, et etc. Et il dit par rapport à la foi Bahaï, la foi de celui que Dieu doit rendre manifeste, enfin comme il s'est appelé dans le Bayan, il dit, comme toute révélation, sa révélation aura le potentiel de l'universalité. Cependant, dans le cas de sa révélation, cette universalité sera réalisée en fait. C'est-à-dire, c'est la volonté de Dieu que ça ne dépendrait pas juste des agissements des individus. OK? Alors, autrement dit, si vous voulez, Dieu ne permettrait pas aux adeptes de la communauté de foi de celui que Dieu doit rendre manifeste, il ne permettrait pas à ces gens-là de s'égarer, de se perdre. Alors, à quoi est-ce que je vise alors? C'est évident. Qu'est-ce que je vise dans tout ça? C'est la maison de justice. C'est l'infaillibilité de la maison de justice. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va empêcher que les Baha'is ne tombent pas dans l'erreur, qu'ils dévient comme toute autre lésion l'a faite? C'est l'infaillibilité de la maison de justice. C'est rien d'autre que ça. Pensez à la chose suivante. Juste. Supposons qu'on avait la foi Baha'i avec tous les principes, tous les enseignements, tout, sauf l'infaillibilité de la maison de justice. Juste ça, on a tous les textes de Baha'u'llah, tous les principes de Baha'u'llah, Kitab-i Aqdas, vous avez les testaments d'Abdul Baha. Et en plus, on peut dire que nous n'aurons rien à offrir à l'humanité. Parce que les principes, Jésus a parlé de l'amour, Moïse a fait de l'amour. Regardez, je vous dis une chose, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, c'est très intéressant. Dans le Kitab-i Aqdas, un passage où Baha'u'llah défend quatre choses. Le meurtre, l'adultère, okay, le commérage et la calomnie. De ces quatre interdictions, trois faisaient déjà partie des 10 commandements de Moïse. La calomnie, l'adultère et le meurtre. Seule l'interdiction de commérage est nouvelle. Donc, la seule différence entre la loi de Baha'u'llah, dans ce sens-là, de loi, pas de règles, enfin, sociales, oui, c'est ça, merci. Et la loi de Moïse, c'est que Baha'u'llah ajoute, et évidemment, il adopte tous les autres principes des 10 commandements, sauf évidemment, il change pour la fête, en fait, des 19 jours, la fête de dimanche, n'est-ce pas? Mais autrement, tous les autres principes, des 10 commandements, il les garde. La seule nouvelle chose que Baha'u'llah apporte, c'est l'interdiction de commérage. Et donc, supposons qu'on devait enseigner la foi Baha'i devant le monde que nous connaissons aujourd'hui, où l'Amérique va probablement envahir l'Irak, et qui sait qu'est-ce qui va arriver après ça, et tout. Ok? Mais, qu'est-ce que nous aurons à offrir si on n'avait pas l'infaillibilité de la maison de justice? C'est l'infaillibilité de la maison de justice, la seule chose qui va sauver le monde. Autrement dit, pourquoi une institution infaillible et pas simplement un prophète infaillible? Parce que maintenant les choses changent tellement vite que les questions maintenant viennent à tous les jours, n'est-ce pas? Qu'il ne suffit plus d'avoir un prophète et des écrits ou même un interprète. Il faut un organisme qui est capable de prendre des décisions continuellement sans se tromper. De donner, si vous voulez, à tout moment le dire présent. Et juste une dernière chose que j'aimerais dire. Je peux vous dire, d'après mon expérience dans la foi, comme membre de trois assemblées nationales, comme pionnier dans je ne sais pas combien de pays, trois ou quatre, enfin bon, quoi, dans la Suisse, la France, le Québec et la Russie, ok, sans compter qu'on s'est déplacé quelquefois aux États-Unis aussi. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que je vous garantis que sans la maison de justice, sans l'infaillibilité, pas simplement l'autorité morale, mais sans l'infaillibilité de fait de la maison de justice, cette foi ne survivrait pas 24 heures. Par exemple, sur certaines assemblées nationales où j'ai servi, okay, sur quelques assemblées nationales, j'ai vu N'est-ce pas? Certaines personnes ont une compréhension de l'infaillibilité comme Bob. C'est simplement la décision la plus rationnelle en fonction, enfin la méthode scientifique, si vous voulez. C'est la décision la plus rationnelle en fonction de toutes les informations qu'on a. La maison de justice est dans une position centrale, elle recueille toutes les informations, ce sont 9 bonnes têtes qui consultent, et donc, etc. Mais Abdelbar dit non, il dit, ne pensez pas que c'est leurs opinions qui vont exécuter. Ben alors, les inspirants, ne pensez pas que les décisions vont refléter leur point de vue. Abdelbar le dit. Donc, ce n'est pas juste 9 bonnes têtes qui mettent leurs idées ensemble. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vu maintes fois où la maison de justice contrecarre une décision de l'Assemblée nationale et on ne peut voir aucune raison pour cela. Mais aucune raison. OK. Et on peut dire, mais il n'y a pas de base rationnelle du tout pour cela. Et puis dans un jour, ou une semaine, ou un mois, ou une année, tout d'un coup, on voit que si on n'avait pas fait cette décision-là, toute la foi aurait été détruite dans ce pays, n'est-ce pas? Et vous prenez n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que Shoghi Effendi a fait des États-Unis le berceau de l'ordre administratif? Eh bien, moi je vous donne mon opinion, en fait, qui n'est pas infaillible, ok? Mais je dis simplement la chose suivante. Parce que les États-Unis de l'époque, dans les années 20 et 30, les États-Unis étaient le pays où on pouvait faire le plus de gaffes en payant le moins prix possible. C'est-à-dire, il y avait moins de conséquences de faire des gaffes. Alors, je dis la chose suivante. L'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de toutes les façons de mal faire. Et l'histoire de l'administration Barry aux États-Unis, c'est l'histoire de toutes les façons de mal faire.
Mais qui avait moins de conséquences.
Mais qui avait moins de conséquences. Ce qui fait que maintenant, nous avons l'Assemblée nationale en Russie, parce que dans Russie, je vous jure, j'étais 2 ans sur l'Assemblée nationale en Russie, vous ne pouvez pas faire des décisions à la légère sans conséquences en Russie. Un faux pas, et vous avez le fisc, vous avez le gouvernement, vous avez n'importe quoi, n'est-ce pas? Enfin, il y a des dangers qui guettent partout. Donc, rappelons que la foi a commencé en Russie, à Ashgabat, le premier temple et tout ça. Mais c'était la volonté de Dieu que ça continue pas, parce que jamais la foi aurait pu se développer dans cette ambiance, parce que le premier faux pas, et puis c'est fini, n'est-ce pas? C'est absolument fini, c'est sans pardon, c'est un milieu qui ne pardonne pas, n'est-ce pas? Donc c'est la sélection naturelle, ceux qui font pas de faute sont ceux qui survivent, et puis ceux qui ont, donc vous dites, ben voilà, tout le monde survit, personne ne fait des fautes. Mais c'est que tous les gens qui ont fait des fautes, ils sont déjà morts, n'est-ce pas? C'est ça. Je termine. Et donc le but de ce discours, c'est simplement de donner un autre contexte à la notion d'infaillibilité, de montrer que ce n'est pas une chose exotique, que c'est une chose qui a toujours été avec nous, et que simplement nous avons une forme plus continue de cela maintenant, et c'est en fait la seule chose vraiment nouvelle que nous pouvons offrir au monde pour garantir la paix du monde. Parce que les principes et tout ça, tout le monde les connaît. Est-ce que vraiment les gens ne savent pas que c'est mieux de coopérer que de se battre, etc.? Vous pensez que les Israéliens, les Palestiniens ne savent pas vraiment qu'ils se font du tort en faisant ça? Il y a même des gens de deux côtés qui disent ça, n'est-ce pas? En Irlande du Nord, je me souviens, pendant toute la bagarre entre les catholiques et les protestants, on faisait systématiquement des sondages. 80 à 90% de toute la population de l'Irlande du Nord était contre tout ce que faisait l'IRA, enfin les terroristes catholiques, aussi bien que les miliciens, enfin protestants et tout ça. Tout le monde était contre ça. Personne ne pensait qu'il avait des problèmes qui allaient être résolus par ces méthodes, ou qu'il avait même des problèmes qui valaient la peine d'être réglés pour cela, n'est-ce pas? Mais les gens continuent à se battre. Donc, même le fait qu'on n'a pas la paix mondiale actuellement Ce n'est même pas dû au fait que les gens ne savent pas comment le faire. C'est simplement un manque de volonté de le faire. Et cette volonté viendra justement de la maison de justice à cause de son infaillibilité. Ça serait donc la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Alors voilà, c'est tout ce que je voulais dire.